On entre toujours dans ce jugement de sagesse. Premier jugement de sagesse, personne, nature, et on voit le lien avec essence et existence. Au fond, le raisonnement de sagesse va montrer la nécessité d'unir ces deux voies. Et je crois que ça, c'est très important. Je n'ai pas insisté assez là-dessus. Parce que je cherche avec vous, dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de sentiers. C'est comme en Afrique, dans la forêt, en plein équateur. On doit toujours refaire un sentier. Après, à peine un fait, il s'en repousse. Et on refait un sentier. Et je viens de sagesse, c'est comme ça. Parce qu'au fond, ça a été très, très peu développé. C'est triste, du reste. Parce que ça devrait être la voie royale. Alors, vous voyez, je vois très bien. Je vois très bien les deux voies. Personne, nature, existence, essence. Mais je vois plus difficilement comment les deux sont absolument nécessaires. Donc, autrement dit, il faut saisir, au point de vue critique, jugement de sagesse, le modus et la ratio. C'est, je crois, ça qui fait le lien entre les deux. Au point de vue de l'être, c'est essence-existence. Au point de vue du mode humain, c'est personne-nature. Alors, c'est très intéressant de voir comment mon premier jugement de sagesse va regarder d'abord le mode humain, puis le point de vue de l'être. Et je vois que ça doit être comme cela, puisque je ne suis satisfait au point de vue métaphysique que quand je saisis la ratio et le modus, et que je le saisis par rapport à l'homme. Alors, ce serait très intéressant d'établir ce qu'est, au point de vue de l'être, la ratio et le mode. Ce qu'est la ratio et le mode au point de vue humain. La ratio et le mode, au point de vue de l'être, c'est l'essence et l'existence. Au point de vue de l'être, de l'homme, c'est la nature et les personnes. Et autrement dit, je peux faire ce petit raisonnement. Du point de vue de l'être, ce qu'est la ratio et le mode, au point de vue de l'homme, de ma vie, c'est la nature et la personne. Réfléchissez là-dessus. Ça en vaut la peine, parce que ça noue notre métaphysique de dire ça. Et notre métaphysique, elle est toujours au niveau de l'être. C'est au niveau de l'être que nous faisons la métaphysique. Et la métaphysique, elle est toujours au niveau humain. C'est forcé, c'est l'homme. C'est la métaphysique de l'homme. C'est pas la métaphysique de l'ange que je fais. Et ça, c'est utile, parce que on fait facilement la métaphysique. Ah, c'est au niveau d'être. Ah, attention, c'est au niveau de l'être par l'homme. Dieu n'a pas de métaphysique. Il est simple. Tandis que j'ai une métaphysique parce que ma nature n'est pas ma personne. Et si ma nature n'est pas ma personne, c'est parce que j'ai dans ma nature l'intelligence. Et l'intelligence ne peut pas se ramener à la nature. Et si j'ai nature et personne, mon plan métaphysique, ça correspond à le point de vue. L'essence et l'existence. Il me semble bien. On approfondit toujours plus. Parce que je crois que c'est... On sent bien que c'est les deux grandes distinctions, et ces deux grandes distinctions s'appellent l'une l'autre. Quand je regarde tout au point de vue de l'être, je regarde tout au point de vue humain. La distinction de l'être entre essence et existence, c'est pas la distinction de l'être, c'est la distinction de l'être vue par l'homme. Et donc je dois en même temps regardez par l'homme, nature, personne. Et, autrement dit, c'est que dans ma métaphysique, je dois, au terme, pouvoir distinguer toujours ce que je précise au point de vue de l'être, mais je dis en même temps, je le précise en tant qu'homme. Parce que si je le disais que c'était uniquement au niveau de l'être, ça voudrait que Dieu lui-même fait cette distinction. Or, Dieu ne fait pas cette distinction entre essence et existence. C'est une distinction terriblement humaine. Et fondamentalement humaine. Alors, il faut que je le dise. Autrement dit, la distinction essence et existence, c'est parce qu'il y a une distinction en moi entre nature et personne. Oui, vous donnez en dernier lieu, et à ce point de vue-là, c'est très moderne ça, parce que je vois que toutes les distinctions que je fais sont des distinctions à cause de l'homme. Et c'est ça que la position actuelle, je ne sais plus comment il appelle ça, le dernier bouquin du Geffray, du père Geffray, pour eux, parce que c'est une distinction humaine, elle n'est plus vraie. Et ça, c'est faux. Elle est humaine tout en étant elle est vraie tout en étant humaine. Parce que mon intelligence est mon intelligence d'homme, et elle demeure intelligence. Elle est intelligence d'homme. Elle résonne, et elle demeure intelligence, capable de saisir l'être. Et Donc ce que l'homme saisit, il le saisit à la manière humaine, mais le saisir à la manière humaine, ça ne veut pas dire que c'est purement conventionnel. Il le saisit à la manière humaine, et en réalité, il y a un fondement dans l'être. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça qui peut seul lutter contre la position actuelle. On ne veut tout regarder qu'en fonction de l'homme. Et alors, par le fait même, il n'y a plus aucune vérité. Et regarder tout en fonction de l'homme, c'est bien évident. Mais cet homme est intelligent. Et par l'intelligence, il atteint l'être. Et donc la distinction qu'il fait, ce n'est pas simplement une distinction humaine, c'est une distinction réelle. Oui. Et on est tout à fait là au sommet. Hein. Et on comprend comment facilement on dira c'est une distinction humaine, donc elle est purement conventionnelle. Ce que je vous dis là, je vous l'ai déjà dit, hein, quand j'ai rencontré ces séminaristes qui avaient été formés à Paris, à l'Institut catholique de Paris, et qui étaient entrés à la Grande Chartreuse. Et ils ont eu le culot de me dire que la vocation de Chartreux était purement conventionnelle. La vocation chartreuse, elle est humaine. Ce n'est pas parce qu'elle est humaine qu'elle est conventionnelle. Elle n'est que conventionnelle. Elle est conventionnelle, très vrai, elle est humaine, mais elle touche à la réalité. Je suis. Alors, vous allez vous trouver demain en face de cette théorie théologique que soutient un père dominicain, la nouvelle théologie, la théologie doit être une théologie qui reconnaît que tout ce que dit saint Thomas, c'est conventionnel. Donc c'est conventionnel, ça veut dire c'est vrai pour le Moyen-Âge. Et c'est pas vrai pour moi, maintenant. Qui c'est pour moi conventionnel? Ça dépend d'une époque. La mode a changé complètement depuis le Moyen-Âge. Il n'y a que l'habit religieux qui restait le même. Et ça, c'est très, très important de saisir cela. Et c'est un problème critique. C'est un problème critique et de sagesse. Bon. Il faut méditer longuement là-dessus. Hein. Pas dans vos insomnies, puisque là, vous ne dormiriez jamais. Seconde distinction, vous dites, c'est du côté de l'intelligence. L'homme a une intelligence participée. Je n'ai pas une intelligence substantielle. Vous savez, c'est un point de vue que soutiennent certains thomistes. Parce qu'il y a un ou deux textes de saint Thomas qui ne sont pas très nets. Mais tout le reste de saint Thomas est très net. Alors ce n'est pas en fonction d'un ou deux textes qui ne sont pas très nets que je dis ça. Et puis je dis métaphysiquement, saint Thomas n'aurait pas dit Mais mon intelligence est participée. Elle vient de Dieu. Elle n'est pas l'intelligence de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est l'attaque directe que vous faites à certains idéalistes. Et on peut dire que le grand philosophe là, actuel, c'est ça. Bon, mais il était protestant. Je suis protestant. Alors, on dit que l'intelligence est participée. Si elle est participée, elle est donc double. Tout ce qui est participé est deux. Parce que ce qui est participé implique la ratio de ce qui est participé et le modus. Donc il y a toujours une dualité. Alors, quelle est la dualité de mon intelligence humaine ? L'intelligence de Dieu est substantielle. Donc, elle est simple. Et elle est identique à son être. C'est pour ça que Dieu connaît sans abstraction. Tandis que mon intelligence y participait. Étant participée, elle est intelligence et intelligence humaine. Ratio motus. Votre intelligence est capable d'atteindre Dieu parce qu'elle est intelligente. Et votre intelligence humaine en tant qu'humaine a une peine énorme d'atteindre Dieu parce qu'elle reste toujours humaine. Alors, quelle est la conséquence du fait qu'elle est intelligente? L'intelligence humaine, c'est qu'elle aura donc nécessairement deux cheminements. Ça ne peut pas être autrement. Vouloir ramener l'intelligence à l'unité comme Descartes. Comme Hegel. Intelligence à l'unité. Et donc, l'objet de mon intelligence est le même que l'objet de l'intelligence divine. Et c'est pour ça que Descartes commence, Hegel commence sa philosophie là où Aristote la termine. Le génie d'Aristote, c'est pour Hegel, c'est d'avoir dit noésis, noéseos, la pensée de la pensée. La pensée comme pensée ne peut que se penser. C'est ça l'intuition de Hegel. Et c'est ça le commencement de sa philosophie, et c'est le terme de la philosophie d'Aristote. Ça, on en est sûr, hein. Puisque c'est comme ça que Hegel intitule son livre sur l'esprit. Il part de la parole d'Aristote, qui est le terme de toute la philosophie aristotélicienne. Et comme disait Thomas, c'est la chose la plus grande qu'a dit Aristote. Dire Dieu est la pensée de la pensée. Noésis, Noéséos. Puisqu'il est la pensée. Et peut-être que la pensée de la pensée. Parce que tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas la pensée. Il n'y a que Dieu qui la pensée. Pensée substantielle. Alors, vous voyez, les deux trains, celui de saint Thomas, celui de Hegel, ils se raccrochent là. Où se termine Aristote, Hegel commence. Pas si mal. Commencer sur le sommet d'Aristote. C'est pour ça que pour Hegel, il n'y a qu'un seul philosophe, celui qui a découvert ça. Sur le dos duquel commence la pensée hegelienne. Tout l'aristotélisme conduit à Hegel. C'est magnifique comme système. Le vieux train. Et puis, Hegel arrive. Il fait partir une vitesse fabuleuse. Il faut, je crois, penser ce qui est d'intéressant dans la pensée hegelienne. Ça, c'est génial d'avoir dit ça. Aristote toucher Dieu, il a pu même définir ce qui caractérisait Dieu, ce qui caractérise l'intelligence divine, c'est d'être la pensée de la pensée. Alors vous voyez, la pensée de la pensée, c'est l'unité, c'est pas la dualité, puisque c'est ce que je pense en premier lieu, c'est ma pensée. Parce que rien n'est plus digne que ma pensée. Donc, ma pensée, de ma pensée, est-ce qu'elle est plus digne? Hegel commence là. Donc, pour Hegel, sa pensée est simple. Elle est comme celle de Dieu. Alors, vous voyez, l'erreur de Hegel, c'est d'avoir confondu la ratio et le modus. D'avoir identifié les deux. Alors, parce qu'il a identifié les deux, j'ai une intelligence, elle est humaine. Mais elle est intelligence. Donc elle est comme celle de Dieu. Puisque Dieu aussi est intelligent. Et c'est pour ça que je peux l'effort d'Aristote le continuer. Mais je le continue en faisant une sacrée erreur. Pour Aristote, son intelligence n'était pas l'intelligence de Dieu. Tandis que pour Hegel, son intelligence est l'intelligence de Dieu. Donc c'est la simplicité. Et c'est pour ça qu'à partir de là, l'hegelianisme se continue homogène, la simplicité. À la simplicité. Je pars au contraire de ce fait que mon intelligence est nécessairement participée. Donc elle n'est pas identique à mon être. Elle est participée. Si elle est participée, elle est nécessairement double. Elle n'est pas première. comme intelligence participée, a donc deux registres. Un registre humain et un registre intellectuel. Le registre humain, c'est que mon intelligence est liée au sens. Ça n'existe pas pour Dieu. Mon intelligence est liée au sens. Par le fait même qu'elle est liée au sens, elle est une intelligence qui nécessairement demande de regarder le sommet de la connaissance sensible, et le sommet de la connaissance sensible, l'intelligence va partir de là. Le sommet d'intelligence sensible, c'est mon imagination. Je suis une intelligence liée à l'imagination et liée au sensible. Alors, je vois que déjà, mon intelligence liée au sensible, elle est liée à l'expérience sensible, elle est liée à mon expérience imaginative, elle est liée à mon intelligence fabricatrice. Je vois tout de suite que mon intelligence humaine aura des développements très différents. Elle est complexe. Mon intelligence n'est pas simple. Le mode humain fait que mon intelligence est liée au sensible. Elle est liée au sensible par la perception, la sensation. Elle est liée au sensible par l'imaginaire. Il y aura donc, dès le point de départ de mon intelligence, une très grande complexité. Mon intelligence liée au sensible est liée à l'imaginaire. Mais l'imaginaire peut respecter le sensible. Et l'imaginaire peut dépasser le sensible. J'aurai donc un point de départ de l'intelligence lié au sensible, c'est-à-dire lié à la réalité qui est, qui existe, ou une intelligence liée à l'imaginaire. J'aurai donc deux développements de l'intelligence totalement différents. L'intelligence liée à l'imaginaire sera l'intelligence mathématique. L'intelligence liée au sensible sera l'intelligence qui abstrait, selon le genre, la différence sensible, la différence spécifique, l'espèce, la propriété, l'accident. Elle aura de fait une intelligence liée aux cinq sens. Il y aurait cinq modalités. Et ce sera mon intelligence typiquement humaine. L'intelligence qui découvre l'universel, qui découvre la différence spécifique, qui découvre l'espèce, qui découvre la propriété, qui découvre l'accident. Et c'est une intelligence qui abstrait selon un type tout à fait. fait naturel, l'abstraction universelle. Je n'ai pas conscience quand mon intelligence a commencé à abstraire. Ça se fait automatiquement. Le passage de homme, le passage de papa à homme. Vous ne savez pas du tout à quel moment ça s'est fait en vous. Alors, vous avez fait ce passage, puisque maintenant, c'est évident. Papa est un homme. Il n'est pas tous les hommes. Homme, c'est tous les hommes. L'universel. Tout ça vient, l'universel. Oh, c'est capital, l'universel. C'est capital parce que la logique ne peut exister que grâce à l'universel. La science ne peut exister que grâce à l'universel. Donc, l'universel a un potentiel de richesse extraordinaire. Tout le développement des sciences. Des sciences pratiques. Et puis, l'intelligence liée à l'imaginaire, elle aura deux types. Une intelligence artistique, une intelligence mathématique. Donc, si je compte bien, 5 plus 2, ça fait 7 développements de l'intelligence. C'est beau d'arriver au chiffre 7. 7 développements de l'intelligence. Par les 5 sens et par l'imaginaire. Et je suis là en présence de deux types de connaissances intellectuelles. L'un, abstraction universelle, les 5. L'abstraction artistique, et l'abstraction mathématique, qui sont tout à fait autre chose. L'abstraction mathématique est plus une composition qu'une abstraction. Je crée l'être mathématique. Je crée l'être artistique. L'imagination est faite pour réfléchis, est faite pour voir comment l'intelligence a un pouvoir créateur. Au point de vue artistique, au point de vue mathématique. Deux types créateurs très différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 7 développements de l'intelligence. De l'intelligence comme humaine. Comme liée au sens et à l'imagination. Et puis, il y a le développement de l'intelligence comme intelligence. Le développement d'intelligence comme intelligence, c'est la séparation avec le sensible. Pour saisir ce qu'il y a d'intelligible dans les réalités, leur capacité d'être. Puisque l'intelligibilité relève de l'être comme tel. Et j'ai une connaissance dite analogique. Analogos. Analogique. Une intelligence qui monte. C'est le problème de l'intelligence comme intelligence. Dopinaltum. L'intelligence qui monte. Et qui monte toujours. Qui donc ces deux, ou plus exactement ces trois, si je veux, ces quatre voies d'intelligence, je les énumère. L'intelligence liée à l'expérience. L'intelligence liée à l'imaginaire artistique. L'intelligence liée à l'imaginaire mathématique. L'intelligence prise pour elle-même dans toute sa pureté comme intelligence. Donc, j'ai quatre développements de l'intelligence. Et j'ai quatre formes d'abstraction. Dont une qui est très simple, qui est commune, et les trois autres qui sont chacune avec leur caractère propre. Caractère propre, tu veux. La séparation métaphysique. La connaissance mathématique. La connaissance artistique. Donc, il y aura trois obstacles à arriver à la connaissance métaphysique. Il faudra, premier dépassement de l'abstraction universelle, deuxième dépassement de l'abstraction artistique, troisième développement de la connaissance mathématique pour arriver à une connaissance proprement spirituelle, unique, de l'intelligence comme intelligence, qui saisit l'être, ce qui est. Je crois que je peux affirmer ça tout de suite. Mais je peux aller plus loin. Je peux montrer que l'intelligence comme intelligence reste toujours une intelligence liée au mode humain. Autrement dit, le jeu des abstractions joue très différemment. L'abstraction universelle est toujours présente, tandis que l'abstraction artistique, mathématique et métaphysique, elles sont propres. Il y a une abstraction commune, qui est une base. Et les autres abstractions sont des chemins particuliers. Et donc, l'abstraction commune celle de l'universel, est toujours présente. Dès que votre intelligence... Il faut donc regarder cette abstraction première. Cette abstraction première qui caractérise mon mode humain d'abstraction. Qui caractérise mon mode d'être intelligent. Implique cette abstraction universelle. D'où la conséquence immédiate qu'il y a deux opérations de l'intelligence. Il faut tout le temps bien distinguer et qui se retrouvent dans tous les modes de la vie intellectuelle. Le point de vue de l'appréhension et le point de vue du jugement. Donc, cette distinction de l'intelligence, appréhension, jugement, apparaît dès que j'accepte l'abstraction universelle. Si j'accepte l'abstraction universelle et fondamentale, je vois donc qu'il y aura deux activités de l'intelligence. Parce que l'universel n'existe pas. Et je suis parti d'une réalité qui existe. L'intelligence, pour avancer, doit s'appauvrir. Elle saisit, en premier lieu, la quiddité des choses sensibles, des réalités sensibles. Ma connaissance de l'universel saisit ce qu'est la réalité, sa quiddité, le toti en enein. En grec, parce que quiddité, ça signifie rien. C'est le mot grec, regardez, le toti. C'est le to-einai qui saisit dans le to-einai, le tien. Tien, qu'est-ce ? Le to-einai est la réalité. Alors, ce mot est très important, le to-tien. Le Tau Einein qui cherche dans le Tau Einein, le tien. Le tien, sa quiddité, son essence, c'est l'appréhension. Vous voyez, si j'accepte cette abstraction universelle, que je suis bien obligé d'accepter, elle est présente. Tout de suite, je vois que la connaissance saisit la quiddité de Toti Enainain. Quiddité, je sais bien que Sartre emploie dans son langage quiddité. C'est très curieux. Aristote sorte. Ça fait pas mal de chemin. La petite quiddité. Et ça tombe la quiddité encore. La quiddité, c'est ce qui est la l'intelligibilité de tout être. Tout être a son intelligibilité. Et je l'appréhende. L'appréhension. Je saisis ça. Et je saisis en même temps ce que j'ai abandonné. Le taux est 9. Ceci est. Donc, mon intelligence est lucide. Quand elle est abstraite, elle abandonne le taux est 9. Elle ne saisit que tienne. Elle saisit la quiddité. Donc, puisque mon intelligence est une intelligence qui abstrait, mon intelligence a deux opérations parallèles, l'une qui est première, saisir ce qu'est la réalité, et dans la réalité, saisir son tienne. Vous voyez, je justifie par là que mon intelligence, parce qu'elle est participée, est une intelligence qui nécessairement a deux modalités dans son exercice. Elle appréhende et elle juge.